Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez en Nîmes, en DAB+, ou sur radioalliance.fr. Nous continuons aujourd'hui notre série d'émissions qui s'intitule « Ici, on parlait de la Camargue ». Je suis le docteur Jacques Jean, je produis, j'anime cette émission avec un intervenant, un invité permanent, Saint-Gillois et Camarguais, le président de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue, monsieur Michel Durand Roger. Michel est un passionné des grandes étendues camarguaises, des villes, des villages et de celui magique qu'est la Camargue. Bonjour à toi, monsieur le président. Bonjour à toi, Michel, et merci d'être avec nous pour partager ta passion de la Camargue.
Bonjour, Jacques. Oui.
C'est bien. Bonjour, Jacques. C'est très bien. Alors, première question là, pour cette deuxième émission sur la Camargue. Si on parlait de la Camargue, pourrais-tu nous parler de la Camargue durant l'Antiquité ?
Oui, alors en fin de compte, comme je l'avais déjà plus ou moins évoqué, la Camargue est originaire, c'est le delta du Rhône, mais c'est surtout, à l'époque glaciaire, les galets que l'on retrouve depuis Châteauneuf-du-Pape qui ont été apportés par les glaciers de la Durance et du Rhône. Mmh. Donc la Camargue a été faite sur un lit de galets que l'on retrouve à 7 ou 8 mètres de profondeur, et qui va non seulement sous toute la Camargue, mais également à 2 km dans la mer. Pourquoi ? Parce que la mer était plus basse à l'époque, puisqu'il y avait des glaciers. Mmh. Voilà. Alors, donc ça, c'est la base. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y avait le Rhône et la Durance, puisque maintenant, la Durance coule très peu, mais elle pourrait couler. Bon, fin de compte, petit à petit, en se déposant sous ces dépôts, on réalisait ce qu'on appelle actuellement la Camargue.
D'accord. Mais au niveau de ce qu'on appelle l'Antiquité, quand les Grecs se sont installés à Marseille, tout ça, qu'est-ce que c'était que la Camargue ? C'était la Camargue actuellement ou c'était le paysage était différent ?
Non,
alors, est-ce qu'il y avait un delta ? Est-ce qu'il y avait
pas un delta ? Non, le delta existait, mais il a beaucoup changé, puisqu'en fait, les alluvions ont changé.
En fait, il change continuellement.
Mais il y a une chose que l'on oublie quand même, c'est que la Camargue était énormément boisée à l'époque. Il y avait, d'ailleurs, on parle toujours de la sylvée réale. C'était la forêt du roi. Ouais. Et en même temps, il y avait de grandes forêts dans le territoire du marquis de Montcalm, qui était une forêt de chasse d'ailleurs, où Montcalm existe encore.
Oui,
Qu'il y a autour de Montcalm ? Il n'y a que de la vigne. Mm. Mais parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, en fin de compte, on a supprimé tous ces arbres. Pourquoi ? Pour mettre de la vigne, parce que, à cause du phylloxéra, il fallait des vignes qui ne puissent pas être touchées par le phylloxéra. Et quand elles poussaient dans le sable, ça permettait d'éviter le phylloxéra. C'est la raison pour laquelle, en 1900, on a supprimé beaucoup des forêts camarguaises pour remplacer par de la vigne, et puis après par des asperges.
Bon, alors, pendant l'Antiquité, avant la romanisation, donc la Camargue, évidemment, changeait, donc il y avait toujours une population, et puis elle était boisée, c'est ce que tu nous dis,
avec des restes
comme sylvée réale, comme des forêts qui existaient, qu'on a coupées pour faire pour planter des vignes de veines de sable que tout le monde connaît. Alors, je ne veux pas parler de marques qui commencent par un L et qui finissent par un L d'ailleurs, mais c'est ça. Alors, donc c'était un paysage totalement différent. Et puis il y a la période, à Nîmes qui nous intéresse, des Romains. Sous les Romains, quand Némosus, quand Auguste donne entoure la ville de remparts pour qu'elle devienne une ville sacrée, parce que c'est important les remparts, parce que c'est pas que pour défendre les remparts de Nîmes étaient des remparts d'agrément, parce qu'il y a un petit appareil, c'est surtout pour délimiter un lieu sacré. Donc la Camargue, qu'est-ce qu'elle est à cette époque ? Il y a beaucoup de moustiques toujours en Camargue, il y en a toujours encore. Alors est-ce qu'il y avait du monde ? Est-ce qu'il y avait des Romains ?
Il y a moins de moustiques maintenant qu'autrefois, ça je te le dis. En ce qui concerne l'époque romaine, en fait, il y avait le Rhône et le Petit Rhône, et il y avait des voies qui étaient le long du Rhône et du Petit Rhône, et s'il y avait des cultures, elles étaient près de ces voies-là, en fin de compte.
D'accord.
Et les Romains circulaient énormément sur ces voies, à tel point que Arles était un port à l'époque romaine, mais actuellement, on a retrouvé les restes d'un port au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui était important, qui est actuellement sous l'eau.
Oui, des archéologues qui travaillent.
Et qui est en train d'être fouillé par des archéologues. Donc ça prouve qu'il y avait effectivement beaucoup de Romains. Mais par contre, les Romains, ils n'ont pas laissé de traces d'agriculture intensive ou importante en Camargue.
Il faut voir que Arles, quand même, est une ville très importante dans la romanité des premiers siècles de l'Empire, hein, puisque quand même c'est une ville impériale où des empereurs viennent. Des conciles sont très importants à Arles. Je veux dire, c'est une ville très importante qui vient après Lyon. Donc automatiquement, avec Arles qui était très 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 important, La Camargue prend de l'importance. Et puis, c'est une voie navigable. C'est-à-dire que le Rhône, on le sait avec Arles, parce qu'on a retrouvé des ponts, on a retrouvé des bateaux, beaucoup de choses dans le Rhône. Donc, le Rhône est une voie navigable qui remonte dans toutes les Gaules, hein, pour du commerce avec les Gaulois.
Oui, oui.
Et évidemment, ça permet d'aller à la mer par Arles. On l'oublie bien souvent, mais Arles, et il est du bon côté du Rhône, parce que ça permet de remonter, mais du bon côté de la mer, parce que le Rhône permet d'aller à la mer. Donc, automatiquement, la Camargue devait être très importante pour les Romains, hein, puisqu'ils y naviguaient. Hein, donc, c'est important. Mais ils n'ont pas quand même laissé de vestiges.
En ce qui concerne l'agriculture, pas vraiment. Non.
Voilà, d'accord. C'est une question pour savoir si la romanité est allée en Camargue. Mais bien, elle est allée à Arles. Alors, si on considère Arles comme la Camargue pure, ils ont laissé beaucoup de traces.
Oui, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a, on a la preuve, ben, très près de Saint-Gilles-du-Gard, dont on a retrouvé certains vestiges, mais qui n'a jamais été fouillé, qui le sera peut-être plus tard, mais qui semble avoir été un port aussi important.
Alors, une question qui me vient comme ça, Saint-Gilles, durant la romanité, quelle importance ?
Alors, on ne sait pas très bien, on pense que, comme je te dis, il y avait un port qui était à côté et avec une occupation romaine. Ce que l'on sait, c'est qu'on a trouvé dans l'ancien cimetière de Saint-Gilles, dans les années 1840, on a trouvé une quarantaine de sarcophages, qui prouve qu'il y avait une occupation
romaine
importante.
Un cimetière.
Et malheureusement, il a été détruit, puisqu'on a mis l'ancien cimetière de Saint-Gilles, qui maintenant est l'ancien, mais qui à l'époque était le nouveau. Et donc, les sarcophages en question, ils en ont gardé certains qu'ils ont mis autour de dans l'abbatiale.
Oui.
Et les autres, ils en ont fait cadeau aux masses pour en faire des abreuvoirs à chevaux. C'est dommage.
Oui, c'est dommage. Oui.
Et on les retrouve encore.
Ah oui, c'est dommage. Bon, alors après cette évocation de la romanité, le Moyen-Âge, c'est totalement différent, le Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge, c'est une explosion de la Camargue, de Saint-Gilles, beaucoup de choses.
Ça, voilà, sûr. Alors parlons que on ne va pas parler de Saint-Gilles, parce qu'on fera des émissions spécialisées sur on ne va pas parler de Gomorte, hein, parce que puis le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, hein, donc... Mais ce qui était très important en Camargue, dans le dur, si j'ose dire, même si c'est un territoire mou, dans le dur, c'est l'installation des moines.
Alors, il y avait Saint-Gilles, Franquevaux et Psalmody. Donc, ces abbayes cultivaient les terres, donc ils avaient des grands territoires. Et puis, il y avait autre chose en Camargue à ce moment-là. Il y a les Templiers, qui avaient des commanderies, qui ont cultivé des terres également, et les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et à partir de Philippe le Bel, Saint-Jean de Jérusalem a pris en charge, on leur a donné les terres des Templiers.
Oui, après l'affaire des Templiers.
Après l'affaire des Templiers, ce qui veut dire que la Camargue était à ce moment-là cultivée, et en même temps il y avait de l'élevage. Puisque, alors... j'en reviens à ce qu'une fois j'avais dit, c'est qu'ils élevaient, on le sait, en 1250 on a vu... C'était signalé, ils élevaient le bétail gros et le bétail menu. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y avait certainement des troupeaux de moutons et des troupeaux de chevaux, de taureaux. Enfin, voilà.
Alors, il existe en Camargue, moi, je l'ai beaucoup travaillé pour un de mes romans qui s'appelle le Templier de Saint-Gilles, le secret des Templiers. Il y a des roselières, c'est-à-dire des endroits où il y a des roseaux, hein, où on coupe la sagne, c'est-à-dire le roseau en provençal. Et évidemment, les cisterciens qui viennent des cistes des roseaux veulent s'installer dans des terres qui ressemblent à les abbayes fondatrices, hein, des cisterciens. Ils sont des bénédictins avec une obédience particulière. Et donc, il y a des cisterciens qui viennent notamment à Franquevaux. Donc, une abbaye très importante à Franquevaux, où ils vont faire assécher, cultiver, etc. Il faut que vous alliez à Franquevaux, parce qu'il reste quand même quelques murs. Hein. Alors, le village n'est pas très grand, mais il reste quelques murs. On voit les vestiges de l'abbaye, qui est important. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui fait venir les moines. Ce n'est pas que les roseaux, c'est le sel. Le sel, parce qu'il commençait à avoir la récolte de sel en Camargue, et c'est un moyen financier très important de cultiver le sel. Et donc, il y a des relations entre les abbayes, des conflits. Alors, des conflits entre l'abbaye de Franquevaux et les gens autour, au niveau de la pêche, etc., qui sont extraordinaires à étudier au niveau historique. Les procès se passent à Toulouse, hein, puisque la cour était à Toulouse. Bien évidemment, les moines qui ont que ça à faire, sont érudits, gagnent sur les paysans, et donc ont un pouvoir et leur terre qui augmente. Et c'est quand même très important, le Moyen-Âge est très riche. Alors, encore une fois, le Moyen-Âge, c'est de la période paléo-chrétienne, la fin de l'Empire romain, 400, entre 400 et 500, on ne va pas donner la date exacte. hein, jusqu'au début de la Renaissance, hein, donc ça fait presque 1000 ans. Et donc là, c'est quand même très important. Il y a différentes périodes où les abbayes vont descendre, où Saint-Gilles va monter, des luttes avec les abbés, etc. Donc le Moyen-Âge, pour faire une émission spécialisée sur les différentes parties du Moyen-Âge en Camargue, est très riche en Camargue. Et il y a beaucoup d'archéologie sur les abbayes en Camargue et des coins de paysages, de photographies à faire, magnifiques. Moyen-Âge, parce qu'après le Moyen-Âge, bah évidemment, la Camargue avec Aiguemorte, ça va être une autre Moyen-Âge, mais là, c'est Louis IX qui va devenir Saint-Louis, hein, et donc il va y avoir une embellie différente à la Camargue, mais évidemment, on parlera d'Aiguemorte dans une autre émission. Alors, vous écoutez bien l'émission, ici, on parlait de la Camargue, sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM, et en DAB+, avec Michel Durand-Roger, président de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue, et Jacques Jaume.
Tous les gitans du monde entier sont rassemblés au mois de mai pour t'implorer, Sainte Sarah. Dans la ferveur et dans la foi, ton esprit saint est dans le cœur de tous les frères, les voyageurs, les bohémiens et les rêveurs qui vivent ici ou sont d'ailleurs. Santa, 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 Santa Sara, tu eres la madre de todos los gitanos. Sara, tú eres la madre de todos los gitanos. Que tu sois gitan ou pas, on se retrouvera avec les larmes des sentiments d'hommes et de femmes, des enfants. Toi mon ami, toi l'étranger, ton mot de route se sont croisés, éclaire aujourd'hui de ta joie la mémoire de Sainte Sarah. Santa, 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 Santa Sarah, tu eres la madre de todos los gitanos. Santa, 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 Santa Sarah, tu eres la madre de todos los gitanos. Soyons liés, mes amis, soyons liés, prions, unissons nos cœurs à la vérité. Soyons liés, mes amis, soyons liés, prions, Sainte Sarah nous protégera.
Vous écoutez, ici on parlait de la Camargue avec Michel Durand-Roger, une émission produite et animée par Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. Donc nous avons fait une historique Rapide, bien évidemment, hein, c'est pas des cours d'université, ni d'académie, sur l'Antiquité avant les Romains, la romanisation, et le Moyen-Âge, avec surtout les abbayes. Alors, il y avait beaucoup d'abbayes, au moins trois. Saint-Gilles, qui est une grande, grande abbaye. Il faut bien vous dire que l'église qu'on a actuellement, que vous pouvez visiter, qu'il faut que vous visitiez, n'est que deux tiers, hein, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, deux tiers, la moitié, de ce qu'était l'abbaye au Moyen-Âge.
Oui.
Et donc c'était un monument. Oui. Et comme je l'ai dit, Saint-Gilles, au temps de l'abbaye, était le cinquième lieu de la chrétienté le plus important.
Le quatrième.
Et moi je dis le cinquième. D'abord. Parce que le premier, évidemment, c'est Jérusalem, parce que le Christ est crucifié. Le deuxième, c'est Saint-Jacques de Compostelle, parce que l'apôtre est venu s'échouer.
Et Rome.
Le troisième, c'est Rome, parce qu'il y a... Et puis, Rocamadour, qui était le quatrième.
Au point de vue... C'est le quatrième, ça dépend. Au point de vue fréquentation, non.
Oui, non, mais enfin, c'était quand même le quatrième. Et Saint-Gilles...
Il y a un débat là-dessus.
Était le cinquième. Mais c'est bien quand il y a un débat. Et Saint-Gilles était le cinquième. Pourquoi ? Parce qu'il était au milieu. Et de Saint-Gilles, vous pouviez aller à Rocamadour, vous pouviez aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous pouviez aller à Rome, vous pouviez aller à Jérusalem. Et Saint-Gilles était très important. Et donc, j'argumente ce que je dis, c'était la ville d'Europe où il y avait le plus de changeurs. C'est-à-dire, il y avait plus de 130 changeurs. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on venait dans des foires, ou quand on venait d'un pèlerinage, quand on venait d'endroits où on utilisait une monnaie, mais qui n'était pas utilisable sur le lieu, il fallait qu'on change. Donc, on voit l'importance des lieux par les changeurs. Donc, Saint-Gilles, c'était l'endroit d'Europe où il y avait le plus de changeurs, parce que ça partait. Et l'abbatiale avait un rayonnement. C'est le cinquième lieu chrétien du Moyen-Âge. Et c'est dommage qu'on ne le dise pas assez, parce que c'est quand même très important pour les chrétiens, et puis pour le tourisme, pour l'érudition, etc., etc. Parce que quand on voit la masse de gens qui vont à Rocamadour, on serait content de voir cette même masse visiter Saint-Gilles et son abbatiale. Alors, toutes ces abbayes et ce grand pouvoir qu'il y avait, qui était très important, pourquoi ça s'est arrêté ? Quel a été leur déclin ? Pourquoi le déclin de cette région?
Bon, alors, il y a deux raisons principales. En ce qui concerne le port de Saint-Gilles, qui est quand même très important, c'est l'ensablement. À partir du moment où il s'est ensablé, il est évident que là, il y avait une très grande foire à Saint-Gilles. Il ne faut pas oublier, avant la foire de Beaucaire, il y avait la foire était à Saint-Gilles. Elle est très importante. Et c'est avec l'ensablement, ben, la foire a changé d'endroit. Alors, il y a eu ça, d'un certain côté. Et puis après, il y a eu, malheureusement, les guerres de religion. Et les guerres de religion ont arrêté beaucoup de choses. Par exemple, si on prend le cas de l'abbatiale de Saint-Gilles elle-même, qui était d'ailleurs une basilique à l'époque depuis Urbain II, donc c'était la basilique abbatiale, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est que tout a été plus ou moins écroulé, et le saint a été pris, enfin, les ossements, les reliques du saint ont été amenés à Toulouse en préservation, donc il n'y avait plus le saint, l'abbatiale était à moitié détruite, elle a été reconstruite le quart de la grandeur. Donc, il est évident que le pèlerinage n'existait plus, ou très peu, voilà.
Ça a beaucoup changé. Tombé, le côté économique, la foire est tombée,
tout ça. Oui.
Mais Beaucaire est resté quand même, parce que Beaucaire est en près du Rhône.
Bon, la foire de Beaucaire est postérieure à celle de Saint-Gilles.
Ouais, donc, il y a eu d'autres lieux qui ont pris
la suite, et puis, parce qu'il y avait le Rhône.
Et puis, il y a eu quand même Aiguemorte. C'est-à-dire que alors, il faut savoir qu'Aiguemorte, pourquoi Aiguemorte ? Eh bien, parce que Louis IX, qui voulait partir en croisade, eh bien, n'avait pas de port sur son royaume. Il n'y avait pas de port, Saint-Gilles ne pouvait pas, donc il a fallu qu'il fasse un port sur son royaume. Donc d'où la création de port de Aiguemorte, qui est un port français, du roi de France, d'où il pouvait partir vers d'où les... Donc c'est une ville purement moderne. Et donc c'est pour ça que alors les remparts, la structuration de la ville est magnifique. Enfin, c'est aussi joli que Carcassonne, qui est une autre cité, hein, qui c'est pas pareil. Mais et de là, il y avait ce canal qui allait vers la mer, qu'on appelle le gros, et puis évidemment le gros du roi. Mmh. Et donc le port de la Camargue au Moyen Âge est devenu Aiguemorte, avec un développement important. Et puis quand les croisades sont arrivées, eh ben plus besoin de port. Et puis surtout, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que au niveau flotte, Venise a pris le pas,
voilà.
Et louait ses bateaux et sa flotte, qui était performante. Donc les Francs n'avaient pas, notamment la 4e croisade sur Constantinople en 1208, n'avaient pas de flotte, donc louaient la flotte aux Vénitiens. Et la location était simple, c'est-à-dire que les Vénitiens les transportaient en leur demandant de se servir sur le tas. C'est-à-dire que les Français se battaient, les Vénitiens récupéraient. Et donc c'est vrai qu'avec les Républiques comme Gênes, etc., la marine, le royaume de France n'avait pas la nécessité d'avoir une marine, donc il n'y avait pas, donc on louait les bateaux. Donc évidemment, la Camargue a perdu un peu, donc après il y a eu les guerres de religion, où il y a quand même eu beaucoup de conflits.
Une destruction. Les deux abbayes dont tu as parlé, Franquevaux et même Psalmody, ont été complètement parasés. Franquevaux, il y a des restes, mais Psalmody, il y a un mur, c'est tout ce qui reste, et des traces au sol. Par contre, Saint-Gilles a été très abîmé, mais est quand même plus ou moins resté.
Voilà. Mais quand même, ce qui est quand même curieux dans ce paysage qui est hostile, la Camargue, avant le tourisme, avant l'assainissement, avant le DTT dans les années 60 où on balançait par avion l'insecticide, c'était un territoire hostile, de marais, toujours les moustiques, on en parle à chaque émission, des roseaux, il faut connaître, parce que je ne sais pas si vous êtes allé vous promener dans les canaux, il faut vraiment connaître. Si vous prenez une barque et vous partez dans les canaux, d'abord il faut savoir monter dans la barque et pas tomber, moi à chaque fois j'ai peur de tomber, et puis il faut connaître, parce que c'est pire que Venise, quoi. Hein. Et bien malgré ce, il y a des villages qui sont restés, il y a une population qui est restée, et puis il y a eu un renouveau vers la fin du 19e, on le voit avec les églises qui sont bâties. Et puis après, la révolution du Marquis qui a vraiment donné un coup de booster à l'histoire et des traditions à la Camargue. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Tu l'as très bien résumé, effectivement.
Oui, c'est ça.
C'est ça, oui.
Bon.
Ce qu'on peut dire encore, il faut ajouter une chose, c'est que à la fin du 19e, les élites qui avaient en Camargue sont parties pour se réfugier à Nîmes, qui était beaucoup plus agréable parce qu'il n'y avait pas de moustiques. Ce qui fait que les villages actuellement sont des villages qui sont essentiellement agricoles.
D'origine agricole,
voilà. Alors que du temps du Moyen-Âge, il y avait des élites qui étaient à Saint-Gilles, très importants.
Ouais.
Il y a eu des papes, il y a eu Jules II, il y a eu le pape Clément IV qui est à Saint-Gilles, il y a énormément de gens qui sont venus, il y a des rois qui sont venus, Saint-Louis bien sûr, François Ier, il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Saint-Gilles. Et puis après tout ça, ça a disparu, et actuellement, effectivement, l'origine de Saint-Gilles actuelle au début du XXe siècle, c'est une origine agricole, essentiellement agricole.
Alors il faut dire quand même que Nîmes, au XIXe siècle, est une ville qui explose. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une bourgeoisie très importante, une bourgeoisie protestante qui est très importante, qui fait beaucoup de commerce, beaucoup de choses. Et puis, il y a quand même la voie ferrée, donc c'est très important. Il y a les mines d'Alès, et il faut apporter le charbon, parce qu'on n'avait pas de pétrole à l'époque, mais on a eu du charbon. Donc il y a tout un développement de Nîmes au XIXe siècle. Et puis, il y a le tissu, les tâtisseries, la toile de Nîmes, etc., très important. Et on n'a qu'à voir le quartier de la préfecture, ce sont des bâtiments du 19e siècle où il n'y a pas beaucoup de commerce. Les Nîmois ne vont pas trop dans le quartier de la préfecture, mais où des hôtels particuliers. Il suffit de voir la préfecture, c'était un hôtel, des hôtels, des bâtiments qui sont quand même 19e très riches. Donc Nîmes est quand même très riche. Au niveau culturel, ça explose. Au niveau art, ça explose. Les églises sont remplies de toiles de maîtres, etc. L'Académie de Nîmes, etc. Il y a beaucoup de choses. Alors que Arles n'a pas de voie ferrée, n'a pas le même lieu de transport. Donc au XIXe siècle, c'est pas pareil. Le côté agricole de la Camargue, il faut continuer quand même à aller le samedi matin à Arles pour aller au marché où toute la Camargue vient acheter ses produits à Arles. Mais c'est quand même agricole par rapport au côté industriel où Nîmes, au XIXe siècle, explose pour et malheureusement redescendre après. Alors, comme vous savez, j'aime bien les livres. Je vous avais cité un livre la dernière fois de Frédéric Simier, qui a fait des ouvrages, et son premier ouvrage, alors il n'est plus disponible, il est épuisé, mais il faut essayer de l'avoir et de le voir, c'est Camargue, une histoire entre Rhône et Méditerranée, de très belles photos, la couverture est magnifique, avec des couleurs qui sont à la mode actuellement, avec un rose du sel des Salins et puis un rose des Flamands qui se découpe sur un bleu du ciel de Camargue qui est magnifique. Alors c'est dans la collection en Provence Mosaïque aux éditions Sutton, qui sont des éditions très intéressantes pour le côté de la régionalisation, notamment de la Camargue et du Midi. Ces paysages singuliers font de la Camargue une région fascinante grâce à de magnifiques photographies, des textes très documentés. Frédéric Simien nous présente le littoral, les lagunes, les marais d'eau douce et les berges du fleuve. Il nous rappelle aussi que l'homme n'est pas absent de cette région sauvage. Depuis des millénaires, il a transformé, aménagé, tiré profit de son eau et de son sel. C'est un livre, je vous rappelle, qui est épuisé, mais vous pouvez essayer de l'acquérir aux éditions ES Sutton, édition Sutton, et qui agrémente bien au niveau couleur et photographique notre émission. Eh bien, très cher Michel, merci infiniment de ton amitié d'abord, qui transpire dans nos émissions sur la régionalisation qu'évoque l'admirable Camargue lors de nos émissions, et si on parlait de la Camargue. Merci encore infiniment à toi, Michel, et à très vite pour une nouvelle émission, et si on parlait de la Camargue.
Au revoir Jacques, et c'est toujours avec grand plaisir que je parle de cette Camargue avec toi.
Mes invités sont toujours contents, c'est une grande satisfaction pour moi. Et comme on dit en Camargue, hasta la vista.